Voilà, j'ai aimé beaucoup les paroles de ce chant. Ta grâce me suffit. Je n'ai pas peur du lendemain, mais c'est pas naturel de pas avoir peur du lendemain. J'aimerais continuer donc avec le thème de cet été. Il y avait entre guillemets des devoirs d'été. Je détestais cette expression quand j'étais enfant, alors ça m'a amusé de l'utiliser. Hein, avec une réflexion pour chacun, qu'est-ce que ça signifie d'être un disciple? Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis dans le processus de former des disciples, etc., etc. Je sais que ça a été repris par plusieurs, notamment Jean-Jacques, et d'autres aussi. Et j'aimerais réfléchir encore un petit peu ce matin à cela, avec une idée derrière et que je vais répéter souvent, je pense, dans les temps qui viennent. Avec la situation qu'on vit actuellement, hein, avec cette pandémie qu'on n'a pas choisie, bien sûr, qui est là, qui s'est installée, qui risque de durer, et si vous vous rappelez, je pense même on l'a entendu parmi nous, hein, très souvent, on prie en disant ah, peut-être un jour il y aura des persécutions, etc., etc. Alors, les persécutions ne sont pas à l'ordre du jour particulièrement, en tout cas violentes dans nos pays, elles existent dans beaucoup d'autres pays. Mais ce qu'on vit, c'est pas une persécution, mais c'est un changement de nos façons de vivre. Hein. Et souvent, je sais pas pour vous, moi je me suis posé la question, si tout d'un coup le pays où je vis devenait un pays où il est interdit d'être chrétien, que deviendrait notre foi personnelle, mais que deviendrait surtout notre vie d'église, parce que garder sa foi personnelle, c'est pas trop compliqué de la garder secrète, mais comment on le vivrait, hein. Et puis, on aime les histoires qui se passent ailleurs, etc. Et là, d'une certaine façon, on a une situation qui est un peu similaire. Alors, on peut le considérer comme quelque chose qui nous bride, qui nous empêche de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ou on peut le considérer comme une opportunité incroyable de découvrir d'autres façons de vivre notre foi, et donc de la renouveler. On sait que souvent, Dieu doit nous... Allez, je vais le dire de façon normale, mettre un coup de pied derrière, hein, chercher une litote, mais non, voilà, pour nous permettre d'avancer. Lorsque la première église a commencé à Jérusalem, si c'était rien passé, la foi chrétienne aurait pu rester l'histoire d'une petite secte religieuse à Jérusalem. Ils étaient bien ensemble, c'était super, ils étaient nombreux, il y avait des conversions, il y avait que des juifs, ils s'entendaient entre eux, tout allait bien, ou moins bien, ils se disputaient déjà, mais ça aurait pu rester un petit truc local. Et Dieu a permis une persécution. Et là, pouf, ils se sont répandus partout. Hein. Et voilà, je suis sûr que ceux qui l'ont vécu, quand ils ont découvert la foi, se disaient « Ah, mais c'est génial !» Une ère de prospérité s'ouvre devant nous, on a trouvé le message, on a rencontré le Seigneur, c'est magnifique. Et puis voilà, on va vivre ensemble des années à Jérusalem, heureux dans notre foi, à chanter des cantiques. Et puis très très peu de temps se sont passés avant que les persécutions arrivent et ils ont dû partir. Et aller répandre l'évangile un petit peu partout. Je suis pas persuadé que les fleurs de pissenlit aiment l'état quand elles se retrouvent en boule et qu'il y a un coup de vent et que pff, ça part partout. Hein. Elles préféraient la période où elles étaient jaunes et bien fleuries et avec du vert autour. Mais voilà, donc Dieu permet certaines choses et on peut juste dire « Oh, c'est pas comme avant, c'est terrible !» ou se dire « Les choses changent et qu'est-ce que Dieu veut nous dire là-derrière » Surtout, comment on peut le vivre avec lui pour aller plus loin. Voilà, ça c'est un petit peu, je pense, qui sera notre réflexion de fond pour les semaines et les mois à venir, parce que on voit, on sait pas comment faire. S'il pleut le dimanche prochain, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Et donc tout peut changer. Par contre, être un disciple, c'est une chose qui change pas dans le cœur de ce que c'est. Et j'aimerais utiliser un texte ce matin dans l'évangile de Jean. Au chapitre 21. Ce chapitre 21 est un de mes chapitres préférés de l'évangile de Jean, qui est mon évangile préféré. Alors, voilà. Donc, c'est après la résurrection du Christ, les disciples savent qu'il est ressuscité, mais il est parti, on n'a plus de nouvelles, et puis, on peut imaginer que les temps passent, les jours passent, et puis il y a que cette idée qu'on l'a rêvé, on l'a pas rêvé, il est vraiment comme nous, hein. Oui, il a fait ça dans nos vies, mais aujourd'hui. Donc ça se passe à ce moment-là. Et c'est suite à cette pêche miraculeuse qu'on connaît, hein, où Pierre est découragé, il part à la pêche parce que c'est la seule chose qu'il sait faire, et même ça, il n'arrive pas à le faire. Et je crois que c'est pour ça que j'aime tellement ce texte, parce que ça me parle tellement de moi dans ces moments où je suis découragé et je me dis « bah je vais retourner à ce que je sais faire, et même ce que je sais faire, je sais plus le faire ». Et là, Jésus appelle Pierre et puis lui dit « jette le filet de l'autre côté », etc. Vous connaissez l'histoire. Il se jette à l'eau, il vient et le repas est déjà prêt. Et ça c'est l'histoire que j'aime. Quand on a tout essayé, quand on ne sait même plus faire ce qu'on savait faire, Jésus nous dit « les enfants, je suis là ». Le feu est prêt, le poisson est nettoyé, le pain est cuit, le poisson est grillé, asseyez-vous, et il leur donne à manger. Pour pouvoir servir Dieu, c'est incroyable, mais il faut d'abord apprendre à se laisser servir par lui. Et on n'aime pas ça, parce que c'est gênant. Et j'irais peut-être encore plus dans la culture ici, où on n'aime pas quand on nous donne quelque chose et qu'on ne peut pas le rendre. On m'a offert un bon repas, il faut que j'offre un bon repas. On m'a payé ça, il faut que je paye l'équivalent. Et Dieu dit, avec moi, ça marche pas comme ça. Arrivez au bout de vous-même, et je sais que c'est ce que Jean-Jacques a partagé sur ce thème-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur pour être un disciple? Mais en fait, c'est la condition préalable à être un disciple. Parce que tant que je pense que je peux être un bon disciple de Christ, je suis comme Pierre avant la crucifixion qui dit à Jésus, même si tous t'abandonnaient, moi, Seigneur, jusqu'au bout, je serai là. Et on voit Jésus sourire, peut-être tristement, parce que c'est quand même triste ce qui se passe après, mais il faut que Pierre passe par cette triple, non, je le connais pas, non, je sais pas qui il est, triple négation, reniement. Et puis, même après la résurrection, ce moment-là où il est au fond du fond, et enfin, il va accepter de recevoir de Christ sans rien pouvoir faire. Donc, si on se sent pas à la hauteur pour être un disciple du Christ, c'est qu'on est au début du processus. On a compris enfin quelque chose d'important. Et là, c'est là que ce texte se situe. Après le repas, donc il aura servi à manger, etc. Jésus s'adressa à Simon, fils de Pierre, à Simon Pierre, Simon fils de Jean, et lui dit « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» Alors, ça peut paraître étrange, Jésus qui est dans la comparaison, mais c'est juste un petit rappel de l'histoire parce que Pierre a dit « Si tous t'abandonnaient, moi, non !» Et Jésus, qui a de l'humour, il dit « Alors, quelques temps après, avec ce qui s'est passé, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Il faut y voir un humour et de la gentillesse là-dedans, il se moque pas de lui méchamment, Oui, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Pierre a fait des progrès, Avant, oui, Seigneur, plus que les autres, moi, là, il a appris, il a pas réussi à marcher sur l'eau, vraiment, un petit peu, il a coulé, mais il a un peu appris à marcher sur les œufs. Écoute, Seigneur, tu sais que, il est plus dans le... Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux, C'est comme ça que Dieu choisit les ouvriers, les bergers pour son peuple. Cette fausse idée que ce qu'on appelle les pasteurs ou les bergers, etc., seraient plus doués que les autres. Non, c'est ceux qui ont tout raté, qui ont compris qu'ils avaient tout raté, qui savaient pas comment faire, qui arrivent pas à faire mieux que les autres. Et là, Jésus dit, enfin quelqu'un qui est qualifié. Il sait rien faire. Peut-être qu'avec lui, j'arriverai à faire quelque chose. Et il prend soin de mes agneaux. Puis il lui demande une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. C'est ambigu comme réponse. Il dit pas je t'aime. Il lui dit, tu sais dans quel état est mon amour pour toi. Et ça, je trouve ça magnifique aussi. On n'est pas dans les grandes déclarations, oui, pour toi, je traverserai la mer. Non, tu connais mon cœur. Et que lui dit Jésus, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. Hein ?» Voilà, donc là on a le début d'une vie de disciple. Et c'est pas essentiel pour la compréhension du texte, mais il y a une évolution dans le vocabulaire de Jésus. Lorsque Jésus dit « Simon, est-ce que tu m'aimes ?» la première fois, pour aimer, il utilise le mot qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, hein, cet amour de Dieu incroyable, etc., qui est là. Et Pierre dit « Tu connais mon cœur ?» Et la deuxième fois, Jésus utilise le même mot « Est-ce que tu m'aimes ?» hein. Et Pierre dit « Ouais, ben là. » Et la troisième fois, Jésus va utiliser un autre mot pour aimer, qui veut dire « avoir de l'amitié hein. ». Est-ce que tu es mon ami? Et là, Pierre répond en utilisant le même mot. Il dit, oui, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Parce que l'amour, comme il est décrit dans 1 Corinthiens 13, on ne peut pas l'avoir pour Dieu si on ne le reçoit pas de lui. C'est lui qui nous le donne. Et Pierre devait faire cette expérience d'abord. Arriver au bout de lui-même, arriver au bout de tout, pouvoir confesser, parce qu'il y a quand même les autres disciples qui sont autour du feu, là, ils se taisent, mais ils entendent, hein. Dire devant les autres, Seigneur, voilà, quoi. Hein. Alors que d'habitude, c'était lui le leader naturel du groupe, parce qu'il ouvrait la bouche plus vite que les autres, en réfléchissant un petit peu moins. Et là, maintenant, il est obligé de dire, tu sais quoi, tu sais que, oui, enfin, j'ai de l'amitié pour toi, mais cet amour que tu me demandes, je l'ai pas. Hein et Jésus le met dans cette position. Alors maintenant, tu vas pouvoir t'occuper du troupeau. Hein. Et puis, il y fait cette annonce. Je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Et ça, c'est la vie de disciple, elle est là. La première chose, c'est de savoir qu'on n'est pas capable de réaliser que Dieu nous demande... La seule question que Christ nous pose, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Et à cette question, on ne peut pas répondre « Je t'aime » de cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Hein. C'est-à-dire parfaitement, toujours, sans condition, jusqu'au bout. Non, j'ai de l'affection pour toi, j'ai de l'amitié pour toi, j'aimerais t'aimer plus. Oui, mais... Et là, Jésus dit « Bien, alors... je vais te donner cet amour, et toi, suis-moi et prends soin du troupeau. Prends soin de tes frères, prends soin des brebis, et surtout, par deux fois, des agneaux, donc des jeunes, hein, de ceux qui viennent de naître dans cette nouvelle vie. » Et le même personnage, Jean, qui a écrit cet évangile, dans l'épître de Jean, dans 1 Jean 4, il dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Cette phrase de Jean, c'est la clé pour presque tout dans nos vies chrétiennes. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Chaque fois que je pense que je suis enfin capable de donner ma vie pour Dieu, de faire ça pour lui, etc., Jésus a le même soupir que lorsque Pierre lui a dit « Oh, si tous t'abandonnaient, moi, Seigneur !» Et Jésus dit « Ouais, bon, on en reparle dans quelques temps. Hein. » Mais ensuite, pour nous, nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Et je sais, il y a des tas d'écoles qui existent, on appelle des écoles de disciples ou des écoles bibliques où on apprend la Bible, etc. Et qui, c'est indispensable, il faut le faire, hein. Mais peut-être ce qu'on ne nous apprend pas assez, c'est ce premier travail-là. Un disciple, c'est quelqu'un qui voudrait aimer Christ, qui sait qu'il n'en est pas capable et qui a compris qu'il a besoin de recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir l'aimer. Et à partir de là, suis-moi. Hein, suis-moi. Et on voit en continuant le texte, ben Pierre, ça reste Pierre, hein. Donc ils partent là, et puis il dit, mais et lui ? Parce qu'il y a Jean qui les suit. Jean, c'était un peu le meilleur ami de Jésus, humainement, sur terre, mais comme ben lui non plus n'était pas parfait, il était un peu jaloux de cette position privilégiée, et il voit Jésus qui part seul avec Pierre, ça lui plaît pas trop. Alors il se met à marcher derrière pour pas rester trop loin, quoi, des fois qu'ils se disent un truc important. Et Pierre, qui est peu mal à l'aise d'être mis dans cette position, dit, mais et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et je dis, lui, si j'ai envie de le garder en vie jusqu'à ce que je revienne, il a pas dit qu'il allait le garder en vie, quand même. Si j'ai envie, peu importe, toi, suis-moi. Et c'est paradoxal parce que être un disciple, c'est devenir responsable, se sentir responsable du troupeau. Et je le répète, c'est pas réservé à quelqu'un qu'on appelle le pasteur et qui est payé pour ça. Être responsable du troupeau, c'est chaque brebis qui est responsable du troupeau. Bien sûr, c'est Christ qui est responsable du troupeau, hein. Mais c'est à chacun d'entre nous. Et donc c'est à la fois cette responsabilité communautaire et en même temps c'est un chemin solitaire. Toi, suis-moi. Parmi les immenses différences, bah c'est même tout est en opposition, mais entre la religion et être un disciple du Christ, il y a le fait que la religion nous offre un chemin tout tracé. Une bonne morale, va à l'église, fais ci, fais ça, et puis ta vie peut... Tu peux tracer, projeter ta vie jusqu'à la fin. Hein. Oui, il y aura quelques surprises, mais voilà, ça va se passer comme ça. Être un disciple du Christ, c'est ne pas savoir où on sera demain. Toi, suis-moi. Oui, mais suis-moi où ? Suis-moi. Toi, suis-moi. Chaque jour suffit sa peine. Et marche avec moi aujourd'hui. Hein. Et Pierre qui était, Pierre, c'est l'équivalent d'un habitant de la vallée de Tavannes qui est né ici, qui a grandi ici, qui espère y passer sa vie. Hein. Il était pêcheur au bord d'un lac dans une petite région, voilà, un petit village. C'était pas un voyageur érudit. Il va se retrouver à l'autre bout du monde pour lui, pour finalement y mourir. Hein. À voyager, à aller à droite à gauche, à rencontrer des gens d'autres cultures, c'était tout sauf ce qu'il pouvait imaginer et peut-être sauf ce qu'il avait envie, j'en sais rien. Hein. Mais être disciple du Christ, ça va nous amener à sortir des ornières, à sortir d'une vie toute tracée où je sais, j'ai ma chaise dans l'église, je m'assois là et je viens tous les dimanches et j'ai ma prière qui est préparée et mon petit truc met dans l'offrande et puis je fais ci et je sais que dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans, ça sera comme ça, avec une petite évolution parce qu'on suit quand même ce qui se passe autour de nous, mais pas un grand chamboulement. Mais suivre Christ, c'est fantastique et c'est pas simple en même temps parce que ça peut nous amener, on sait pas où, hein. Ça peut amener quelqu'un du sud de la France en Suisse, hein. Dernier endroit où il pensait aller. Pas parce que c'est pas beau, hein, parce que c'était trop beau, il y avait rien à faire. C'était déjà parfait. Mais il vous fallait quelqu'un de moins parfait, c'est pour ça. Ça peut nous amener, on ne sait pas. Et peut-être, ou probable, c'est très possible qu'on ne va pas bouger géographiquement ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va nous amener dans d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, dans un perpétuel mouvement, dans un voyage avec lui. Toi, suis-moi. Et puis, oui, mais lui, il ne te suit pas, lui, il ne te suit pas comme ça, et lui, il ne fait pas assez, et lui, il fait trop, et moi, je suis tout... C'est pas ton problème. Hein. Toi, suis-moi. Et moi, je m'occupe de chacun. Hein. Fais ce que toi, tu as à faire. Et ça, c'est une chose qu'on a du mal à apprendre. Parce que, on est comme Pierre, hein, tout. Ouais, mais lui, si tu me demandes de plus qu'à... Hey, toi et moi. Hein. Et c'est intéressant, cet apparent paradoxe, la Bible est remplie de ça, entre... L'idée de communauté qui est très très forte, hein, l'Église, une famille spirituelle, une communauté où on est responsable les uns des autres, et en même temps, c'est Dieu et moi, moi et Dieu, et puis t'occupes pas des autres dans ce sens-là, quoi. Et c'est ce mélange de ces deux choses qui fait que l'Église est particulière. Et être responsable, c'est quelque chose qui nous fait peur. J'ai souvent pensé que les gens, vous savez, dans la parabole du bon samaritain, il y a cet homme blessé au bord de la route, et puis il y a tous ces gens qui passent et qui s'arrêtent pas, hein. Et notamment donc des gens religieux, ou peut-être ils n'étaient pas religieux, mais enfin des gens qui avaient un service religieux à accomplir et qui ne se sont pas arrêtés. Et moi, le premier, on est souvent un peu méchant avec ces gens-là, quoi. Ils sont égoïstes, ils sont religieux, ils sont hypocrites. Mais souvent dans ma vie, j'ai pensé, parce que je me suis trouvé dans cette situation, que la vraie raison pour laquelle ils ne s'étaient pas arrêtés, c'était la peur de devenir responsable. Vous savez ce que dit le Petit Prince, hein, parlant de sa rose, on est pour toujours responsable de ce qu'on a apprivoisé. Et moi, je sais, à une époque, dans d'autres contextes où c'était facile et plus possible et possible d'évangéliser beaucoup dans la rue, il y avait des gens que j'hésitais à aborder. Parce que c'était des gens qui vivaient dans la rue, qui étaient dans un état social difficile, etc. Et puis, parce que ça m'était déjà arrivé avant, hein, d'avoir des gens comme ça qui vivaient chez moi pendant des années, de me dire, mais est-ce que je veux parler avec lui? Parce que s'il est intéressé et qu'il me dit, d'accord, c'est bien beau, mais ce soir, je dors où? Et je lui dis quoi? Et la tentation de faire comme les gens sur le chemin dans l'histoire du bon samaritain, elle est forte. Parce que tout d'un coup, on se retrouve avec une brebis aux pattes cassées dans les bras, et puis il faut qu'elle mange, il faut qu'elle dorme, il faut qu'elle... C'est pas simple. Hein. Mes parents ont vécu ça, ils ont commencé de s'occuper de jeunes, c'était super, ils se convertissaient, et puis mon père s'est retrouvé à vendre son entreprise et à devenir agriculteur alors qu'il était fabricant d'objets métalliques. Parce que tout d'un coup, il y avait ces gens-là, et puis ils ne pouvaient pas leur dire écoutez, maintenant vous annoncez l'évangile, rentrez chez vous. Hein. Oui, mais j'ai pas de chez moi. Et je mange quoi? Et je dors où? Ah, on devient responsable. Et c'est compliqué. Et je pense que c'est une chose qui nous fait peur. Et nous sommes dans des cultures, à l'Occident, très 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 individualistes, où moi, mes affaires à moi, mes projets à moi, ma retraite à moi, mon avenir. Oui, mes enfants, c'est normal. Mais c'est tout. Et cette idée d'être responsable des autres, alors je ne parle pas ici de se mêler de la vie privée des gens, de leur dire ce qu'ils doivent faire, etc., hein. Mais cette responsabilité qui est sur notre cœur, comment va mon frère? Comment elle va? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vit? Il aurait besoin qu'on prie ensemble, il aurait besoin peut-être d'un repas, il aurait besoin d'un coup de main pour nettoyer sa maison, il aurait besoin qu'on lui tonde sa pelouse, il aurait besoin surtout de parler, de partager, d'être écouté. Ouais, mais je préfère le connaître de loin, le voir le dimanche matin et puis dire « ça va ?» en espérant qu'il me dise oui, parce que s'il dit non, c'est embêtant. Hein, et puis à dimanche prochain, hein, ouais, on se verra à la prochaine activité, mais d'un peu loin. Pour ça, le Covid, c'est bien, hein, on doit rester loin. Et des fois, ça nous dérange pas tant que ça. Hein. Mon fils Brice m'a dit qu'à Lausanne, quand ils ont annoncé qu'il fallait se tenir à 2 mètres, les Suisses ont dit « Pourquoi on doit se tenir aussi près maintenant ?» Mais l'être humain est comme ça, hein, que les autres restent un peu loin de moi, parce que... Et même dans les cultures où on se tape sur le dos, c'est pareil. Hein. Oui, c'est comme ça, vite fait d'abord, mais... Restez chez vous. Hein. Voilà, donc toi, suis-moi et prends soin de moi. Et puis, j'aimerais juste vous laisser un verset, mais peut-être je ne vais pas le développer ce matin, parce que je prendrai une prochaine fois, mais pour que vous puissiez y réfléchir. Hein. Parce que si être un disciple, c'est suivre Christ, donc c'est pas un programme établi, ça veut dire qu'il nous faut accepter un changement complet. Dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on dit un changement de paradigme, hein. C'est-à-dire une façon différente de concevoir le monde. Et là, je parle du monde spirituel, du monde avec Christ. Hein. C'est pas juste... Jésus dit, on met pas sur des vêtements anciens un petit bout de tissu neuf, parce que quand on le lave, ça fait craquer le vieux. Hein. On met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On a toujours fait comme ça, on va continuer de faire comme ça. Hein. Et c'est particulièrement difficile dans une culture où plus une chose se répète de la même façon, plus elle a de valeur. C'est pas un péché, la culture est comme ça. Hein. Quand on a voulu, avec Croissance Afrique, faire le stand de la braderie, le monsieur nous a prévenus, il a dit, vous savez, un nouveau stand à la braderie, la première année, personne s'arrête. La deuxième année, les gens disent... Ah, ils sont revenus, ils s'arrêtent toujours pas. La troisième année, ils se disent, ça fait 3 ans qu'ils viennent, ils sont peut-être sérieux. La quatrième année, ils s'arrêtent pour goûter. Et la cinquième année, ils disent, c'est des gens bien, ça fait 5 ans qu'ils sont là, on va aller manger chez eux. Et ils s'attendent à ce que vous restiez à cette place-là avec le même menu pour les 30 prochaines années. C'est la culture, elle a ses avantages et ses défauts, elle est comme ça. Mais c'est encore plus difficile quand on est pétri de cette culture-là, de se dire, on va suivre le Christ et ça va nous amener à vivre différemment, à tout reconsidérer, hein. Et c'est pour ça que je trouve, d'une certaine façon, c'est pas mon choix, j'aimerais mieux que ça soit pas là, mais que le Covid peut être intéressant. On peut plus se rassembler tous dans ce petit bâtiment le dimanche matin. On va faire quoi? Arrêter l'église, arrêter de se voir, arrêter de... Ou est-ce qu'on va se dire, mais dans l'histoire de l'église, il y a eu des millions de situations où c'était plus compliqué que ça. Comment ils ont fait? Ils se sont retrouvés dans les catacombes parce qu'ils pouvaient pas se retrouver à l'extérieur. Ils se sont retrouvés dehors dans la forêt. Ils se sont retrouvés dans la région, hein, dans des grottes sous les ponts. Ils se sont retrouvés. La vie s'adapte toujours. La mort, non, elle pourrit. Donc voilà, juste nous mettre devant Dieu et je vous laisse ce verset à méditer jusqu'à dimanche prochain. Probablement qu'on le prendra, à moins qu'il y ait autre chose qui vienne entre-temps, mais dans cette idée-là toujours. Dans Romains 12, verset 1, et je le lis dans la version du Semeur. « Je vous invite donc, mes sœurs et mes frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, donc toujours préalable l'amour de Dieu, hein, c'est lui qui nous aime, à lui offrir, ça c'est notre réponse, votre corps, donc votre vie entière, comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. » Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Il y a tout un programme dans ces deux versets. Et Paul disait ça à des gens qui étaient en train d'avoir une vie complètement chamboulée. Le christianisme n'existait pas. Il écrit à des gens qui habitent dans une ville païenne, qui viennent de passer d'un culte où on va voir des prostituées sacrées dans le temple, où on égorge des taureaux, on boit leur sang. Et tout d'un coup, ils sont chrétiens et ils vont devoir être complètement renouvelés. Un nouveau monde. Hein. Un bouleversement total. C'est différent de nous qui avons 2000 ans de christianisme derrière nous, avec des formes, des traditions bien incrustées. Mais les situations qui viennent nous bousculent sont là pour décaper notre évangile, à nous dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est vital, hein, et puis qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est du... Ben, c'était peut-être bien, mais maintenant c'est plus possible. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre pour que la vie puisse continuer de se développer, de grandir et de nous émerveiller? Alors je vous laisse avec ce texte, si vous le voulez bien, à lire, à méditer dans la semaine, comme ça vous serez préparés pour la suite. Et puis, qu'on puisse demander à Dieu de nous aider dans cette vie de disciple. Seigneur, nous te demandons de faire ce travail en nous. Nous sommes comme Pierre ou pire. Nous avons peut-être des bonnes intentions, mais nous ne sommes pas capables d'être tes disciples, nous ne sommes pas capables de t'aimer. Et toi, tu nous équipes, tu nous aimes, tu nous as donné ton esprit, tu nous conduis dans ta présence, et c'est à nous de choisir, de décider, est-ce que nous voulons ou pas. Et ton appel est toujours là, toi, suis-moi, que nous puissions y répondre, et savoir discerner ta voix pour avancer jour après jour, pas après pas, et progresser avec toi. Merci pour chacune et chacun ici ce matin qui a pris cette décision de venir, de se rassembler, de réfléchir, de penser avec toi, de se mettre à ta disposition. On te prie pour tous ceux qui sont encore en vacances ou ailleurs ou occupés avec d'autres choses et que nous puissions trouver, découvrir en tant que famille spirituelle comment tu veux que nous vivions les temps qui sont devant nous. Mais que nous puissions répondre à ton appel d'être tes disciples et de te suivre. Amen.